Mais non. Bon, je fais partie des couillons qui vont certainement voter non. Et je voulais le faire savoir en chanson. Salut Daniel. C'était Frédéric Damien.
Sarcolande est un pays où d'affreux méchants de droite et des simples d'esprit de gauche votent non. Et les gentils intelligents votent oui. Sarcolande est un pays où les choix sont faciles quand on est gentil et intelligent. Par contre, si on est simple d'esprit, ça demande plus de réflexion. À bon entendeur, salut.
Oui, bonjour Daniel, ici Olivier de Seine-Maritime. J'ai un scoop en or pour toi. On va bientôt apprendre, je pense, dans les jours qui viennent, que Jean Tibéri, pour se faire pardonner toutes ses magouilles et ses petites conneries auprès de l'UMP, a lancé lui-même son propre comité de soutien pour le oui au référendum sur la Constitution européenne. Donc, il va annoncer très officiellement que Tino Rossi, Luis Mariano et Fernandel appellent à voter oui pour la Constitution européenne.
Oui, je voulais dire au monsieur là qui essaie d'assimiler les gens qui voteraient non à des quelconques lepénistes et compagnie, je voulais lui dire merde. Parce que si vous avez un cerveau, monsieur, et si vous ne l'utilisez que de façon binaire et aussi bête, alors tant pis pour vous. Mais moi, quand j'irai voter non, je me sentirai pas du tout une lepéniste. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez écouté le reste de l'émission, c'est un peu ce genre d'utilisation de cerveau. Vous voyez qu'on a entendu. Alors bon, c'est dommage, quoi. Au revoir.
Et si on vote oui? On vote oui à côté de qui? À côté de Monsieur Bolkenstein, à côté de Monsieur Sellière, à côté du MEDEF qui dispute la palme de l'archaïsme ou la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. On vote à côté des marchés financiers. On vote à côté des gouvernanciers. C'est quoi un gouvernancier? C'est un homme politique qui ne gouverne pas, qui fait de la gouvernance. C'est quoi faire de la gouvernance? C'est gérer les affaires publiques comme on gère les affaires privées, c'est-à-dire sans aucun égard pour le bien public. Avec ceux qui veulent privatiser l'énergie, puis après on ira lutter contre l'effet de serre, avec des sociétés anonymes dont le but sera de nous en vendre toujours plus de l'énergie, par exemple, etc., etc. Alors moi, je vote non contre les gouvernanciers, qui sont les fossoyeurs du bien public. D'ailleurs, vous verrez, ils sont faciles à reconnaître, c'est comme les fossoyeurs, ils sont toujours habillés en noir. Il n'y a que la cravate qui fait la différence.
Allô, bonjour, c'est Monsieur Belladidier de Gennevilliers. J'ai entendu ce matin à la revue de presse sur France Inter que le Figaro saluait la position antilibérale de Monsieur Chirac. Alors je me posais une question, mais qu'est-ce que fait Monsieur Dassault? Ok, ciao.
Bonsoir Daniel, c'est Minet de Marseille. C'est pour te dire merci d'avoir utilisé le mot résistance en parlant des Palestiniens, parce que ça c'est tellement rare. Bah je te remercie. Et voilà. Merci encore. Au revoir.
Les Lubavitch prennent la nation, la race, la pureté, le nettoyage, des mots qu'on connaît. Parallèlement à cela, ils attendent la venue du Messie, dont la parole, nous disent-ils, est sacrée. Que se passera-t-il, que se passerait-il, s'il vient et leur dit qu'ils se trompent, que les Juifs sont dans l'erreur, que les Israéliens sont dans l'erreur? Supporteront-ils un Messie qui les contredise? Supposons que, comme celui des chrétiens, il leur enseigne l'amour universel et le partage. Accepteront-ils tout de leur Messie, puisque c'est le Messie, ou bien s'arrangeront-ils pour dire que c'est un faux, que le vrai c'est pas lui, que le vrai va venir? Et s'octroieront-ils donc le droit de mettre à mort le falsificateur? Patrick Poumiro, d'Auch, juif lui-même.
Bonjour Daniel, j'ai écouté avec plaisir votre émission de ce soir sur la situation de ces pauvres gens, ces pauvres Palestiniens emmurés, les maltraitances qu'ils subissent de la part de l'armée israélienne, de leurs pigeons, cibles de Tzahal. C'est vraiment terrifiant, j'en aurais pleuré si je ne connaissais pas la vérité. Daniel, je crois que c'est vous le pigeon. Consciemment ou inconsciemment, vous faites le porte-parole de la propagande pour pro-palestinienne. N'ayez crainte pour vos ailes. Les Israéliens ne sont pas des assassins.
Depuis une semaine, j'hallucine. Je me demande comment, à l'aube du 21e siècle, on peut tenir de tels propos. Soi-disant au nom de la Bible, non, non. La Bible prône l'amour du prochain, certes, mais pas son anéantissement. À Naplouse, moi j'y étais quand M. Arafat était en France, et à Ramallah, j'étais là-bas lors de ses funérailles. Ma colère et ma honte étaient à ce moment très très grandes quand j'ai vu tout ce que j'ai pu voir en Palestine. Comment on peut laisser faire ça? Qui un jour aura le courage de dire « Suffit Israël, maintenant tu respectes les résolutions de l'ONU ». Voilà, c'est Sabine, une simple terrienne tellement impuissante.
Daniel, j'ai écouté tes émissions sur l'Israël, la Palestine. Bien sûr, c'est un problème grave et où le religieux est important. Et je voudrais te poser une question qui me paraît importante à mes yeux. Tu as parlé des protestants et maintenant tu parles des juifs orthodoxes. Extrémisme radicaux, dis-tu. Je voudrais savoir pourquoi tu ne parles jamais des personnes qui travaillent au dialogue interreligieux. Je suis sûr que tu les connais, comme par exemple le rabbin Philippe Haddad, Raleb Benchir pour l'islam, ou Émile Choufani, le chrétien. Je ne comprends pas pourquoi tu ne parles pas de ce dialogue interreligieux qui est quand même important. Voilà, c'était juste un petit mot de la part de Jack à Avignon, dialogue interreligieux. Voilà, merci pour tes émissions. À bientôt.
Bah oui, Jack, mais Philippe Haddad, par exemple, le rabbin Philippe Haddad, on l'a reçu. Dans là-bas, si j'y suis, on est tout à fait attentif et ouvert au dialogue interreligieux. Et il nous arrive aussi de dépeindre, bien contre notre gré, et sois sûr, mon cher Jack, certains extrémismes religieux, ethno-religieux, et cette région du monde, le Proche-Orient, où nous retournons encore aujourd'hui, c'est la fin de notre voyage dans cette partie du monde, eh bien, ce sont des situations fréquentes et des moments fréquents, on a pu le montrer au cours de ces reportages. On va aujourd'hui passer cette heure dans la maison, effectivement, du pigeon à la patte cassée. Alors, est-ce qu'on est nous-mêmes les pigeons? C'est possible, mais vous allez voir que lorsqu'on passe un moment comme ça avec une famille, celle de Khalil Béchir et sa femme, ses enfants, dans la bande de Gaza, ça fait du bien. Ça fait du bien un instant de se débarrasser du cynisme, du soupçon, et de rêver que le pigeon est effectivement une colombe et que sa patte est réparée. On y va. Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, la maison des Bachir. Flight number 2, arriving from New York.
قالوا لي طيب من اليوم وصاعدا بدك تعرف انه بيتك مقسم الى ثلاث مناطق A, B, C.
On m'a dit que à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que ta maison est partagée en trois zones. Zone A, B et C.
A, B, C.
Voilà, ça c'est le fiston qui a été blessé. Il a pris une balle dans le dos, le garçon.
Mais il a encore des éclats. Les médecins ont décidé de ne pas aller chercher les éclats qui sont encore dans son corps.
T'as pas ?
Et c'est triste, c'est très triste de voir un enfant à qui on apprend d'exploser pour la Palestine. Vous ne verrez jamais une mère israélienne dire « Je veux que tu meurs comme mon fils, je sacrifie mon fils ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, cet état d'esprit. Je me rappelle ce que Golda Meir avait dit. Le jour où ils aimeront leurs enfants plus qu'ils nous haïssent, là on aura la paix.
Vous parlez des Palestiniens ?
Oui.
أنا عايش في ديزيرتد ايلاند. I am in a deserted island. أنا ما فيش عندي من المدرسة للبيت. بعد الساعة 5 أنا مسجون ما بقدرش أطلع.
Moi, je vis dans une île déserte.
Une île déserte.
Et je ne peux pas contacter les autres parce que de l'école à ma maison, et à partir de 5 heures, je ne peux pas sortir de ma maison. C'est interdit. Je suis isolé.
Der Al-Bala, c'est au milieu de la bande de Gaza et c'est là qu'on se trouve aujourd'hui, côté Gaza. Et je dis côté Gaza parce que jouxtant la maison où nous nous trouvons se trouve une implantation, une colonie qui s'appelle Kfar Darom. Et alors jouxtant, c'est vraiment mur contre mur. Et entre cette colonie, l'une des maisons de cette colonie et la maison où nous sommes, eh bien, il y a un dispositif militaire, il y a un mirador de l'armée israélienne. Pourquoi ? Parce que la maison où nous nous trouvons, celle de la famille Béchir, celle de Khalid Béchir et de ses enfants et de son épouse, eh bien, est prise en otage depuis des années, depuis le début de cette seconde intifada. Cette maison est prise en otage, cette famille est prise en otage, assignée à vivre au rez-de-chaussée, tandis que les étages, premier et deuxième étage de la maison, sont occupés et à la disposition permanente de l'armée israélienne qui a fait de cette maison un point stratégique. Et ça a été une vie infernale qu'on a du mal à imaginer pour cette famille pendant toutes ces années. Et voilà que la perspective du retrait prochain de la bande de Gaza par l'occupant israélien va libérer ce lieu et cette famille. Et c'est le récit de cette imminente libération que cette famille nous fait aujourd'hui par une journée de printemps, peut-être à Gaza, tandis que colombes et pigeons nous surveillent.
Samuel et Jonas ont quitté le pays. Fatima et Martine ont sacrifié leur vie parce qu'ils ont voulu s'en remettre à demain, dessiner l'avenir, le brandir de leurs mains. Continuer la mémoire héritée des ancêtres pour qu'on ne voit jamais sa terre disparaître. Cette terre poussière, fortune du manant, la monnaie des colons, la fierté de l'Orient. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau. Cette terre désert qui baigna dans le sang lorsque les blancs entrèrent au gré des quatre vents. Cette terre défendue maintes et maintes fois reprise, que nos pères ont tenue quand le monde lâchait prise. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit vouloir ma peau. Elle doit avoir ma peau. Quand les jets de nos pierres face aux canons des chars et des murs de poussière nous privant de victoire. Un peuple délogé, isolé de son sol, qui voudra rattraper l'histoire en son envol. Et c'est la vie, la mort ont le même visage, et l'avenir se dessine entre ruines et carnage. Que les pages du Coran explosent de lumière. Je vous implore, Allah, ils ont volé ma terre. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit vouloir ma peau. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau. Si la vie m'a mis là, c'est qu'elle doit avoir ma peau.
Mirador là, juste, tu vois la mirador là israélien, c'est juste en face, on est à 100 mètres là. On est à 100 mètres, aujourd'hui avec la trêve, on peut avancer avec la voiture, autrefois on peut pas marcher. Et la maison de Béchir, à gauche c'est la colonie de Kfar Darom,
Et on voit là, il y a des, un peu encore des maisons arrosées de, d'impact partout, de balles, des maisons entassées les unes sur les autres.
Ouais. Ou, si vous voulez, pour, on doit descendre pour pouvoir avancer, pour voir la maison, parce qu'on ne peut pas avancer encore avec la voiture. Regarde la discussion, ici c'est des arbres, et c'est sa maison. Regarde, elle a été occupée par les soldats israéliens, premier, deuxième étage. Voilà ce qu'ils ont laissé derrière eux.
Le camouflage.
Oui, le camouflage et le machin. Ils ont pris sa maison comme un mirador de contrôle.
Alors voilà, on est arrivé à proximité de cette maison qui jusque-là était séparée du reste du monde par un mur de terre. Il y a quelques jours, les bulldozers de l'armée israélienne sont venus ouvrir l'un des pans de terre qui enfermait la maison, le jardin et donc la famille, et on peut entrer, mais la famille a été un peu inquiète de nous voir venir parce qu'ils sont surveillés depuis 4 ans, ils sont surveillés, scrutés chaque instant, chaque geste, chaque mouvement, et donc ils ont eu un peu peur de notre venue, craignant que ça leur attire des ennuis. Alors on s'est replié et on est allé chercher le père, l'homme à qui cette maison appartient, le chef de famille. Il s'appelle Khalid Bachir. Il est directeur d'une école, non loin de là, une très grande école, un centre scolaire, où tout se passe bien, et c'est lui le directeur. Et on est revenu avec lui, chez lui, donc. Et avant de savoir si on peut être reçu chez lui, s'il peut nous recevoir chez lui, eh bien, il va demander l'autorisation à alors à quoi? À un mirador, parce qu'on voit pas le militaire auquel il s'adresse. Et donc, il tenant sa petite fille, l'une de ses petites filles, par la main, eh bien, il va au pied de ce mirador. Devant nous, quelques dizaines de mètres devant nous, et il s'adresse à l'invisible soldat.
Voilà, voilà Khaled Bachir qui va vers la guérite. On voit le soldat là qui est derrière sa petite lucarne sous le camouflage. Il a sa petite fille, ouais, c'est vrai qu'il le suit. Et puis il avance main en l'air et il crie « Journalist who want to interview me ?»
Pas l'anglais, là.
Wait, d'accord, wait. Ah, il va consulter son chef maintenant. Il va appeler l'officier pour savoir.
C'est une situation extraordinaire. Monsieur Béchir est là, avec ses enfants. Il est en train de parler à un militaire planqué dans un mirador, sous un système de camouflage, de bâche de camouflage. Et il lui demande s'il peut recevoir des journalistes. Et le gars dans le mirador lui a dit « Je vais voir mon chef. » Devant nous, on a la maison otage, la maison des Béchir. Le rez-de-chaussée, c'est la famille et les étages.
C'est la zone B et la zone C. C'est-à-dire sous administration israélienne.
Avec des barbelés, avec des toiles de camouflage et des pigeons et des colombes.
Hein? Vous voyez, je suis pas libre chez moi, je demande la permission pour recevoir mes invités.
C'est vrai qu'au bout de son jardin, on voit la clôture électrique, et puis encore derrière des barbelés, et puis encore derrière des espèces de mâts avec des antennes. Ah, ça crie de la guérite. Il se retourne.
Il est en train de se foutre de moi et il va pas répondre tout de suite, mais il était exprès de me laisser attendre.
C'est vrai qu'il y a sa maison et puis après il y a un grand terrain vague où on voit les traces de débris là-bas, il y a des traces de chars qui ont labouré la terre. Et la maison la plus proche de la sienne, on voit, bah alors là c'est constellé d'impacts de balles. La maison d'en face aussi, là c'est un mur blanc, alors on voit tous
les ruines des maisons,
tous les trous noirs et des ruines là-bas. Et juste à côté c'est une école. Enfin, c'était une école, parce qu'il y a encore le drapeau, il y a encore des préaux, mais la porte est fermée et condamnée.
Il y a des éclats à l'intérieur.
Et oui, t'as raison.
Inutilisable.
On voit là les murs, là, des classes.
Et les vitres
à l'étage.
Sont cassées.
Et, ça, c'est et là, c'est des impacts de balles. En fait, il habite dans le No Man's Land, quoi.
ces petites filles qui s'est assise sur les parpaings au pied de la clôture. Ils attendent la réponse de l'officier. No problem, apparemment.
Il n'y a pas d'effet ou pour ici.
On est avec M. Khalil Béchir, là, chez lui, dans son jardin. Mais juste derrière nous, c'est-à-dire dans son dos à lui et face à moi, il y a un mirador de l'armée israélienne, qui est à 50 mètres, qui nous regarde. Ah, il est très prudent. Sa femme n'est pas du tout rassurée, parce qu'il est arrivé que les militaires israéliens donnent l'autorisation à des personnes d'entrer dans la zone ici, il y a un an, un tout petit peu plus d'un an. Mais ils ont tiré quand même. Ils ont tiré quand même sur son fils, qui a été blessé à la colonne vertébrale. Donc, ils sont à moitié rassurés. Mais c'est une situation absolument délirante.
بعد خمس أيام من اندلاع الانتفاضة الأخيرة وبالضبط في 12/2000
Après 5 jours d'éclenchement de la dernière intifada et exactement le 2/10/2000
سقط على بيتي صاروخين
Il est tombé sur ma maison de domicile
عادوا الكرة وقالوا لي طيب إذا بدكش تطلع ممنوع تستقبل حد ممنوع تلف حول البيت ممنوع تطلع على السطح
Et après cela, on m'a dit, si puisque tu ne veux pas sortir de ta maison, donc tu dois savoir que tu as l'interdiction de faire le tour de la maison, de sortir de la maison et de monter sur le toit de ta maison.
Et
donc, je leur dis que tout ce que je peux faire, je vais le faire, sauf de sortir de ma maison, sauf si je suis mort.
Je préfère mourir que de quitter ma maison.
Exactement.
واللي حدث بعد هيك ثلاث شهور متواصل القصف على البيت وأنا ولادي معتصمين في غرفة اعتقدت إنها الأكثر أمان.
Et après cela, durant trois mois, les tirs chaque jour, il y a des tirs contre la maison. Et moi et mes enfants et ma petite famille, nous étions tous dans une seule chambre, là où nous sommes en sécurité.
قالوا لي طيب من اليوم وصاعدا بدك تعرف إنه بيتك مقسم إلى ثلاث مناطق A, B, C.
Donc, on m'a dit que à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que ta maison est partagée en trois zones. Zone A, B et C.
وأضاف أيامها. قال لي B و C ملكنا ملكهم هم. A ملكك بس جزئيا لا يحق لك تستقبل اي حد الا التصريح منه
il m'a fait une petite explication sur la répartition de ma maison il me disait le B et le C c'est notre bien c'est notre propriété et la zone A là où tu es c'est une propriété à toi partiellement suivant nos décisions
c'est une concession que nous te faisons d'être chez toi seulement au premier étage le deuxième et le troisième étage c'est à nous, c'est-à-dire que c'est nous armée israélienne qui contrôlons ton premier et ton deuxième étage
في تلك الليلة ليلة 28 انخدعت الغرفة اللي احنا بننام فيها كملجأ كل العيلة طلعت منها ورحت على غرفتي المواجهة لهم بقرأ في حاجة بقرأ اللي كنت في التابعة
J'ai été trahi par cette confiance parce qu'ils étaient là les deux étages, il n'y avait pas de tir donc j'ai quitté la chambre où toute la famille dort j'ai pris une autre chambre en face en prenant un livre pour lire
في هذه اللحظة بالضبط وجهوا قذيفة مباشرة على راسي ورقبتي من وراء.
Tout de suite, ils ont lancé un obus de char dans la chambre où j'étais.
بعد ما أفقت طلعت لأولادي في الغرفة وأنا كل دم.
Après que je suis réveillé, je me trouve plein de sang. Je suis dirigé vers mes enfants pour voir mes enfants.
D'où était tiré cet obus de char?
من الموقع من وراء الدار.
Juste derrière ma maison, de cette zone militaire là.
شايفيني طبعا وعارفيني وعارفين الغرف لأنهم مسكنين الدار وعارفين كل حاجة متعاملين.
Bien sûr, ils me connaissent bien Ils ont occupé la maison, ils savent qui est à l'intérieur, ils me voyaient et m'ont ciblé. Il n'y avait aucun résistant ici. C'est-à-dire, il n'y avait pas de tir contre eux. Et ça, ils ont avoué ça après. Mon fils, il m'a pris dans la voiture parce qu'il n'y avait pas des ambulances qui venaient jusqu'ici. Il ne savait pas conduire, donc il a pris la voiture et il a conduit à l'hôpital.
Qu'est-ce que tu avais ?
كنت بأنزف من رقبتي في راسي لأنه الشظايا كلها في راسي وبعدين هم مش بس قذيفة ألحقوا القذيفة بمجموعة رصاص الخشب اللي وراء ظهري في رصاص مخزوق من فوق دواني ومن فوق راسي ومن فوق
j'étais touché par les éclats d'obus de char dans ma tête et mon cou et il y avait beaucoup de tirs des balles après j'étais pas touché mais le long de le tour là où j'étais allongé il était plein de trous plein d'impact des balles.
Et voilà, ainsi Khalil Béchir et sa famille s'accrochent, se maintiennent, résistent. C'est une résistance passive. On a parlé de la résistance hier. Ben là, c'est un cas de résistance passive. Les anciens se souviennent de ce que ça veut dire, ce que ça voulait dire pendant la Seconde Guerre mondiale que cette résistance passive. Pourquoi est-ce qu'il veut rester absolument là, Khalil Béchir, alors que lui, c'est une vieille famille. Il appartient à une vieille famille qui n'a pas été chassée. Qui n'a pas quitté Gaza en 1948. Les terres qui sont autour lui appartiennent, lui reviendront peut-être un jour. Mais il veut rester là justement parce que ceux qui sont partis ne sont pas revenus depuis 1948. Et puis aussi parce que en décembre 2000, peu après le déclenchement de cette seconde intifada, il avait un frère qui a été complètement épuisé rapidement par ses tirs incessants, par ses pressions et cette répression permanente et ses menaces, et il a décidé de partir. Et bien, dans l'heure qui a suivi son départ, les bulldozers ont détruit sa maison dans les 24 heures. Alors évidemment, voilà, ce qui fait que cet homme, qui est un résistant, mais qui n'est pas engagé militairement dans des unités combattantes, qui est un musulman, un croyant, mais qui n'est pas un islamiste extrémiste, eh bien, il reste tout simplement là parce qu'il considère que c'est sa terre, que c'est sa maison et que c'est son droit.
Tout le monde veut la paix, bien sûr, hein. Mais qu'est-ce que tu vois comme possibilité, toi? Tu vois quelle division du pays?
D'abord, moi, je crois que l'humanité, c'est notre maison. Et je pense que la vie de l'être humain, elle est plus chère que la terre. C'est pour cela, je suis convaincu qu'on peut arriver à avoir une solution entre deux.
Mais quelle est la solution?
La solution, c'est de retourner aux frontières des 67, d'accepter cette solution et d'avoir l'État ici.
Ici et en Cisjordanie?
Gaza et Dhofar Ghadir.
Oui, Gaza et la Cisjordanie.
Et le Quds.
Et la Jérusalem.
Quds al-Sharqiyya.
Est.
Jérusalem Est, et le retrait des implantations, le retrait des colonies en Cisjordanie?
Le retrait complet
des colonies.
Parce que les colonies, c'est des bombes à retardement.
Des bombes à retardement. Et la question des réfugiés là, palestiniens qui voudraient revenir en Israël, puisque ils y ont des terres, ils y ont des maisons, ils y avaient des maisons. Qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés?
Si on prend par sentiment, on peut comprendre et c'est justifié leur envie de retour chez eux. Mais mais les faits et la logique et la réalité sur le terrain nous poussent tous d'abandonner ce rêve et d'accepter une solution intermédiaire.
Donc,
Mais il devrait avoir un soutien moral et international. Ce n'est pas un genre de lâcheté ou bien non, c'est un acte courageux pour pouvoir vivre en paix.
Et une sorte d'indemnisation. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est le projet de Genève.
أنا لا أبالغ إن قلت أن جنيف مقتربة مني لأنه أفكاري سبقت جنيف.
Je vais pas exagérer en disant peut-être que les propositions de Genève ont été inspirées de mes pensées parce que moi j'avais cette idée avant qu'il les déclare.
وأنا على قناعة لو أن الزعماء في الجانبين لهم نفس أفكاري في التسامح.
Et j'ai la conviction que si les deux côtés ils avaient la même politique pragmatique que j'ai, nous aurions déjà pu avoir une solution entre nous.
Pour toi aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment on est entré dans une trêve? Est-ce que pour toi aujourd'hui c'est la fin de l'intifada?
Je pense qu'on est en train d'approcher à la fin de l'intifada. N'oublie pas que je suis toujours optimiste. C'est ma nature. Et maintenant, je vous invite à manger avec moi un coup et après on va prendre.
Et après on va continuer, mais entre temps, pendant qu'on a toutes ces paroles optimistes, jamais perdre de vue que face à nous, il y a quelqu'un qui nous observe avec des jumelles régulièrement. Là, on regarde, il suffit de lever les yeux et on voit depuis la petite guérite le soldat israélien. Qui nous observe avec ses jumelles.
Ah, même pas 100 mètres. Hein. Pas 100 mètres.
Of course, they're watching.
And you can see the apparatus on the roof.
Il regarde et puis Khaled Bachir nous dit aussi qu'il y a des appareils sur le toit par lesquels on peut être observé.
Ah, il y a des caméras là. Là, il y a une caméra au-dessus de nous.
Ouais.
Souriez, vous êtes filmé.
Voilà. Et voilà, on est servi des super courgettes farcies.
Génial.
Thank you.
Why not?
Ah, it's a pleasure.
For
you.
Yeah.
What's your name?
Youssef.
Youssef. He was shot. Lui là, on lui a tiré dessus.
Ah, c'est toi qui as été blessé?
Youssef,
voilà, ça c'est le fiston qui a été blessé, qui a pris une. Ah ouais, 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 ouais. Oh là là. Dans le dos, il a pris une balle dans le dos, le garçon.
Now the fractions inside his body.
Mais il a encore des éclats. Les médecins ont décidé de ne pas aller chercher les éclats qui sont encore dans son corps.
Mm-hmm. Yes. A team of experts decided that he will suffer from problems in the future.
Mm-hmm. Et les médecins sont à peu près sûrs qu'il va avoir des conséquences, des effets secondaires dans le futur.
Ça part. Il faut rappeler que la solution dont parle Khalil Béchir dans sa maison de Gaza, dans son jardin, étrange jardin, cette solution-là, elle est partagée, cette idée-là, et ce plan est approuvé par l'opinion israélienne. En majorité, plus de 60% d'Israéliens sont favorables au désengagement et à une solution comme celle qui vient d'être évoquée, qui n'est pas nouvelle du tout, hein. Khalil Béchir dit qu'il y avait déjà pensé. Enfin, on sait bien que beaucoup y ont pensé et que ce projet a fait son chemin depuis aussi longtemps. Mais ce qui s'y oppose, on le sait, c'est toute cette idéologie ethnico-religieuse qui, effectivement, de chaque côté, bloque dans un mouvement régressif et très exploité par les pouvoirs qui bloquent le cheminement vers la paix. C'est des courgettes farcies. Hein. Des courgettes farcies qu'on vient de déguster, c'est vraiment délicieux. Hein. Courgettes farcies avec soit du riz, soit du blé cassé et un peu de viande hachée. Viande
hachée avec persil.
Voilà, c'est tout à fait agréable.
Et puis en plus, il y avait des olives. Mais simplement, Monsieur Bachir, c'était désolé de ne pas pouvoir nous faire goûter ces olives, parce que là, sur le terrain vague qu'il y a derrière nous, avant, c'était ces oliviers, ces orangers, ces serres qui ont été rasés.
Qui ont été rasés par l'armée israélienne, et l'armée israélienne, elle est derrière nous, à 50 mètres, et nous surveille du haut d'un petit mirador avec un équipement de camouflage par-dessus, parce qu'ici, depuis le début de l'intifada, c'est-à-dire depuis octobre 2000, la maison est prise en otage avec la famille prise en otage. Et donc, on l'a compris,
Le rez-de-chaussée, c'est réservé à la famille, mais le premier et le deuxième étage est squatté par l'armée israélienne. Et ce qui est touchant, et très touchant même, c'est les pigeons. Mais c'est pas des pigeons, c'est des colombes qui volettent un peu partout. On se dirait vraiment dans un livre d'images pour les petits-enfants. Mais... Et puis la caméra qui nous surveille. Nous sourions car nous sommes filmés.
Hein, filmés, on a mangé, ils n'ont pas mangé parce qu'ils ont resté à nous filmer.
كل مرة بيجوا فيها على البيت الخطوة الأولى بيستدعوني بكون معهم ثلاث الطبق الأرضي بتفتش غرفة غرفة وكيف أنا قدام الجنود ورشاشاتهم في ظهري لازم أنا أمر بالغرفة تتفتش.
Ce qui est un peu remarquable, que chaque fois quand il vient ici pour passer la nuit avec moi au rez-de-chaussée, donc déjà les clés et les premiers étages et deuxième étage, il est occupé complètement par eux, mais premier étage, les clés sont avec moi. Quand il vient, d'abord, il vient avec les chiens et de visiter chambre, et de fouiller chambre par chambre. Même, ils peuvent faire ça trois fois par jour s'ils vont venir trois fois par jour. Et derrière moi, il y a un fusil qui est bien dirigé contre moi. Et après cette fouille, il prenait les clés et il me regroupe tous avec ma famille dans une chambre. Et le lendemain, ça m'est arrivé plusieurs fois que je ne peux pas regagner mon travail jusqu'à 11h du matin parce qu'il refuse de me donner la clé à 8h ou bien à 7h le matin.
Hein? بأسلحتهم مشرف وجوهنا ناطريننا والباقيين اللي بنعسبناهم على البلاط وأحدهم بتجول بينا.
Plusieurs fois ils ferment la porte complètement sur nous dans la chambre, mais de temps en temps quand on sent bien, ils laissent la porte un peu ouverte. Trois à la rentrée de la porte avec leur fusil dirigé sur nous, et un il se balade entre nous à l'intérieur, et les autres ils dorment par terre dans les couloirs.
مرة حصل أجوا علينا حبسوا معانا أصدقاء يونانيين. عندي بنت عمرها 10 سنين طلبت تروح الحمام مرضيوش عملتها حالها قدام الاجانب.
Une fois j'avais des invités grecs, ils ont passé la nuit avec moi et les militaires ils étaient avec moi à l'intérieur de la chambre. Ma fille de 9 ans a demandé d'y aller à la toilette, ils ont refusé, donc elle était forcée de faire pipi sur elle.
انا لا اشكو بقصد استعداء العالم عنهم او عمل دعايه انما انا بقرر واقع.
Moi, je suis pas en train de réclamer ou bien de faire des plaintes pour que je déclenche une haine contre eux. Non, c'est uniquement je suis en train de citer les faits.
وهذا نتيجه العداء بيننا وبينهم وصلنا الى هذا الدرك الاسفل من الانسانيه انه ما يحترمش انسانيتي ويخاف مني نتيجه العداوه اللي نفسنا نقضي عليها.
Et ça, c'est le résultat de cette haine qui les a poussés à ne pas me respecter comme un être humain et de venir à ce stade dégradant de non-respect.
Forme de résistance passive, c'est le Gandhi de Gaza.
Non, je ne deviendrai pas violent, non, je ne deviendrai pas fou.
Ben oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a un moment, la non-violence et la non-folie.
Tu sais, c'est l'entretien psychique avec la présence multiple et de l'importance à prouver à ce monsieur-là par la presse, les ONG, les lettres qui venaient ici, même s'ils n'arrivent pas à les lire, ça lui donne beaucoup de courage.
Toutes les lettres qu'ils ont reçues dans les cartons, ils ont reçu des lettres du monde entier à cause des reportages, à cause des ONG. Les milliers de lettres qui sont dans les cartons, ils les ont gardées.
N'importe quel être humain, si il constate qu'il y a un soutien moral de tout le monde qui te donne l'importance que tu existes, tu vas dépasser largement la zone de ne pas savoir ce que tu vas faire.
Mm-hmm.
Et tu seras redressé vers la bonne voie. C'est pour cela, M. Bachir, il sait parler, il sait manifester, il sait révolter, il sait comment faire convaincre le monde entier, ce qui a donné l'importance de sa résistance idéale, à mon avis.
Mais est-ce que par moment, tu n'as pas eu envie de partir, dire bon, allez hop, ça suffit, c'est mauvais pour les enfants, c'est mauvais pour ma femme, on devient fou, on va devenir fou, allez, partons, tant pis.
أنا بحب بيتي وأنت تعلم أن المحب مستعد يضحي بحياته من أجل الحبيب على أن حبيبي أنا هو أرضي وبيتي.
Moi j'aime ma maison
Et comme vous le savez, celui qui aime, il peut se sacrifier. Et puisque ma maison, c'est mon amour, donc je dois rester dans ma maison parce que je l'aime. Je dois avouer que dans l'avenir, j'ai un risque que mes enfants vont souffrir des conséquences psychiques.
Mais est-ce que tu as des relations avec les colons? Est-ce que tu as parlé avec les colons et qu'est-ce que tu penses d'eux?
Je suis
très heureux que vous avez posé cette question.
أليمة مع المستوطنين في 92 المستوطنين هم اللي دخلوا بيتي وكسروا وحطموا حماماتي.
La seule relation que j'avais avec les colons, c'était une seule mauvaise souvenir, c'était 1992. Ils sont rentrés chez moi, ils ont détruit tous mes seins.
وحتى هذا التاريخ لا علاقات بيني وبينهم رغم اني في اكثر من مره من خلال الصحافه
j'ai fait beaucoup de tentatives à travers les journalistes de les inviter de venir me visiter ici chez moi et que m'invite d'y aller chez eux et de vivre en paix. Ils ont refusé et on m'a répondu je vais vous montrer
ce qu'ont dit les colons dans un article
colons,
de presse.
Oui, un article je vais trouver. Oui,
un article qui s'appelle un homme de paix avec l'armée sur son toit.
Un homme de paix avec l'armée sur son toit.
D'après l'article, il y a 40 familles qui vivent dans la colonie. Et ils appellent la maison de Bachir la Sniper House, la maison des snipers. Et ils pensent que l'armée a été trop tendre avec lui. Et Sarah Friedman, une professeure qui est née aux États-Unis, qui habite dans la colonie, elle dit « Chaque matin, nous nous réveillons et nous rêvons de voir la maison du sniper détruite. Et chaque jour, c'est une surprise de voir qu'elle est encore là. » Même si ces gens ne nous tirent pas dessus, et même si c'est pas de leur faute, s'il y a effectivement des gens qui viennent de là pour nous tirer dessus, cette maison devrait être détruite.
Ces colons sont quelques milliers dans la bande de Gaza. On va en parler dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent lors du retrait. Ils sont près de 8000, alors que autour dans cette bande de Gaza, c'est l'endroit de la planète le plus peuplé avec 1 400 000 Palestiniens qui sont entassés. Et ces colons répartis en 21 colonies sont protégés par 6 bataillons militaires qui sont en permanence déployés sur place, c'est-à-dire 2500 soldats avec 400 militaires qui protègent notamment la soixantaine de familles de la colonie de Kfar Darom, c'est-à-dire celle à côté de laquelle nous trouvons, une des colonies les plus idéologiques. Les gens qui sont là sont habités par une certitude, c'est que cette terre a été donnée par Dieu et qu'il s'agit de la préserver, bien évidemment, et que toutes les autres considérations passent au second plan, à commencer évidemment par la vie des voisins.
J'ai une photo de sa maison où on ne peut pas aller.
Les parties de la maison où on ne peut pas aller, oui.
Où il y a des centaines de douilles qui ont été ramassées, des douilles de pistolets mitrailleurs, et avec laquelle ils ont écrit les lettres PEACE.
PEACE, P-E-A-C-E, PEACE, entièrement écrit avec des douilles alignées, posées les unes à côté des autres.
Elle est toujours là-bas. C'est mes enfants qui l'ont fait.
C'est quoi ça, To the Jail?
Yeah, To the Jail. And now it is written, my daughter, she wrote To the Jail. Because the room in which we are always imprisoned, every night the soldiers come and see it. Voilà.
C'est quelque chose aussi qu'on peut pas voir, puisque comme on est sous l'observation des soldats israéliens, on peut pas rentrer dans la maison. Mais devant l'entrée de la porte, où toute la famille est obligée de dormir tous ensemble dans la même chambre, sa fille a écrit To the jail, vers la prison. Comme ça, quand les soldats israéliens viennent le soir, ils savent où est la famille, dans la prison, dans la pièce où ils sont tous les uns sur les autres.
Bon, ça c'est une question d'intimité. On n'a pas la chance de vivre notre vie normale, de couple.
Mm-hmm.
Là, tout simplement parce qu'on est vraiment occupé à l'intérieur de ma maison.
Mm-hmm.
Il ne peut pas passer la nuit avec sa femme. Parce que tous on est dans la même chambre en plus.
دفعنا الثمن ظاهر لكن عشان قناعتي بالسلام لازم أربي أولاده ما يكرهوش الطرف الآخر متحمل كل هذا
J'ai payé très cher cet sacrifice, et tout simplement pour pouvoir élever mes enfants et les entraîner pour ne pas avoir une haine sans connaître notre adversaire, pour pouvoir vivre avec lui dans la lumière. Parce que si mes enfants vont avoir cette haine, les conséquences seront dans l'avenir.
Le jour du retrait, ça ressemblera à quoi pour toi ce jour-là? Est-ce que ce sera un jour de victoire?
هي انا لا اخذ الامور بالمنتصر والمنهزم انما انا افهم ان هذا انتصار للسلام.
Moi je vois pas les choses par un gagnant et un perdant. Je dis que c'est la paix qui a gagné.
وساقيم احتفال هان اكون حريص على دعوه الاسرائيليين قبل الاخرين في انحاء العالم انهم يحضروا عند هان الاسرائيليين نحتفل مع بعض.
Et à ce moment-là je vais faire une fête ici. Et je veillais sur l'invitation des Israéliens avant tous les autres, de toutes les autres nations, qu'ils assistent à cette fête.
Ah, tu veux inviter les Israéliens à la fête ici?
Non. Les Israéliens vont venir dans ce lieu et je vais être chariot. Si ils ne sont pas venus, je vais considérer le fêtage manquant.
Oui, j'ai insisté que les premiers invités à cette fête, ces Israéliens, s'ils ne vont pas venir, j'aurai le sentiment que la fête elle est manquée.
Ça va te faire drôle après, non? Comment tu vas vivre après le retrait? Reprendre une vie normale?
Absolument, bien sûr. Mais je vais constater qu'il y a un vide à mon côté est.
Ils vont te manquer.
Oui, sincèrement, je vais sentir qu'il y a un vide, parce que même du mal, tu auras une leçon.
بدي أشكرك وأرحب فيك وتحياتي للفرنسيين الشعب الفرنسي الصديق ورجاء حارا.
D'abord, je vous remercie de votre visite. Je remercie le peuple français à sa position de soutien. Et j'aimerais bien vous transmettre un message aux Israéliens surtout, de leur dire que le moment est venu qu'on puisse vivre ensemble et en paix, tout simplement pour que nos enfants puissent vivre loin de la haine avec vos enfants et l'avenir de nos enfants.
Est-ce que ton fils là pourrait épouser une israélienne?
لما لا؟ إن اختار فلا سوف أشجع ولا أمانع.
Pourquoi pas? Si son choix tombe sur une israélienne, hein, je vais pas l'interdire.
Et ta fille?
Oui, bien
sûr. إذا قررت اختارت بس لا أعتقد أنها تختار بس إذا قررت أنا راح أحترم قرارهم يعني.
Je pense pas qu'elle va choisir un israélien, mais si elle a choisi une israélienne, je vais respecter son choix.
Ok.
Le fils, simplement le fils, lui, il est moyennement d'accord d'épouser une israélienne. Il dit ça risquerait d'avoir l'intifada à la maison.
Merci à tous, merci à Khalil Swad Bachir, merci à George, Marsha, Janet, Lee, Sharon, Tom, Chuck, Peter et Karen, à tous ceux que nous avons rencontrés au cours de ce voyage, Adolphe, Malek, Danny, Jeff, Lee, Nancy et tous les pèlerins du Journey Home. Merci à Diane Duby, à Rabbi Eckstein, à Ray Sanders, à Madeleine Cohen, à Yehuda Shaul. Merci à Yoel Tsour, Itzak Chadmi, Elia Zakmi, Shaim Moran. Merci à Gedalia, Shlomo, Mikael et Anna Picard. Merci à David Chawat. Merci à David Shapira. Merci également à Abraham Segal, Sylvain Sipel, Isabelle Dor, Maya, Emmanuel Faux, Eva Laloum, Jacob Aizer et Raja Aboudega, notre traducteur de Gaza. Merci aussi à Michel Warchavski et à Gershom Gorenberg, reporter
qui vendent-ils? Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse, j'y suis. Technique aujourd'hui, Patrick Henry et Mathias Alléon. L'équipe de La Basse, j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello, Raphaël Moutarde et Christophe Imbert qui s'occupe du répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Dans 31 secondes de réclame, vous allez retrouver Charivari avec Frédéric Bonneau. Nous, on se retrouve demain à 17h pour La Basse, j'y suis. Salut.